السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج ہی میں بدری صحابہ کا ذکر کروں گا ان میں سے
J'évoquerai aujourd'hui encore une fois les compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Le premier se nomme Tulayb bin Umair. Son nom d'emprunt était Abu Adi. Sa mère se nommait Arwa et elle était la fille d'Abdul Muttalib. Et elle était ainsi la tante paternelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tulayb bin Umair était aussi connu sous le nom d'Abu Adi et il faisait partie des tout premiers musulmans. Il avait embrassé l'islam quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était encore à la Dar al-Arqam.
Abu Salama bin Abdurrahman bayan karte hain.
Abu Salama bin Abdurrahman relate que Tulayb bin Umair embrassa l'islam à la Dar al-Arqam. Et il se rendit immédiatement chez sa mère après avoir embrassé l'islam. Et il dit à sa mère, « J'ai décidé de suivre le saint prophète Mohammed, peace soit sur lui, et je crois en Allah, le Seigneur de tous les mondes. » Sa mère lui répondit, « Le fils de ton oncle mérite le plus ton soutien et ta coopération. » C'est-à-dire, tu as très bien fait d'avoir accepté le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle ajouta, « Je jure par Dieu, si nous les femmes étions aussi forts que les hommes, eh bien nous l'aurions certainement accepté et nous aurions soutenu sa cause et nous l'aurions défendu. » Tulayb dit à sa mère, « Pourquoi donc ne suivez-vous pas le saint prophète Mohammed paix soit sur lui en acceptant l'islam ? Si tels sont vos sentiments, votre frère Hamza est lui aussi devenu musulman. » Sa mère répondit, « Je verrai tout d'abord le comportement de mes sœurs et ensuite je me joindrai à elles. » Tulayb commenta, Je vous demande, au nom d'Allah, de partir à la rencontre du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et de le saluer et de l'accepter. Témoignez que personne n'est digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Sa mère répondit, Je témoigne moi aussi que personne n'est digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le prophète d'Allah. Par la suite, la mère de Tulayb bin Umair défendait verbalement le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. et elle encourageait son fils à le soutenir et à l'obéir. On dit à propos de Tulaib qu'il était le tout premier à avoir blessé un polythéiste en raison du fait que ce dernier avait insulté le saint prophète Mohammed B.S.A.W. On raconte qu'un jour, Auf bin Sabra Sahmi avait insulté le saint prophète Mohammed B.S.A.W. Tulaib l'a frappé et l'a blessé avec l'os de la mâchoire d'un chameau. Quelqu'un est parti se plaindre auprès d'Arwa, la mère de Tulaib, en lui disant « N'avez-vous pas vu ce que votre fils a fait ?» La mère de Tulaib répondit « Tulaib a soutenu le frère de son oncle et il a apaisé la tristesse du frère de son oncle avec son sang et ses biens. » Selon certains, Tulaib bin Omer avait frappé un certain Abu Ihab bin Azib Darmi. Et selon d'autres récits, il s'agissait d'Abu Lahab ou d'Abu Jahal. Selon un récit, lorsqu'on se plaignit auprès de sa mère pour l'action qu'il aurait commise, eh bien sa mère répondit « Le meilleur jour de Tulaib est celui quand il a défendu son cousin, c'est-à-dire lorsqu'il a défendu le saint prophète Mohammed B.S.A.W. qui a été suscité avec la vérité de la part d'Allah. » Tulaib faisait partie des musulmans immigrés en Abyssinie, mais par la suite, quand la rumeur s'est répandue en Abyssinie que les Quraychites avaient embrassé l'islam, eh bien, certains musulmans sont retournés à la Mecque. Tulaib faisait aussi partie de ces musulmans retournés à la Mecque. C'est un fait que j'ai mentionné dans le passé. Hazrat Mirza Bashir Sahib déclare que certains historiens pensent que les musulmans étaient en Abyssinie depuis quelque temps. Lorsqu'ils ont entendu la rumeur que les Quraychites avaient embrassé l'islam et que la paix régnait à la Mecque, certains de ces musulmans sont retournés sans réfléchir. Ensuite, ils ont su que la nouvelle était fausse. J'ai donné des détails à ce sujet quelques semaines de cela dans un de mes sermons. En tout cas, ils sont retournés là-bas et ils ont pris la protection de certains chefs. Certains sont retournés en Abyssinie lorsqu'ils ont découvert qu'il s'agissait d'un mensonge. J'avais aussi expliqué la cause de cette rumeur et ce n'est pas la peine de répéter ces explications ici. En tout cas, les compagnons sont retournés en Abyssinie parce que les persécutions perpétrées par les Quraychites prenaient de l'ampleur. Et suite aux ordres du saint prophète Mohammed B.S.A.W., d'autres musulmans s'exilaient en cachette. On dit que le nombre d'émigrants musulmans en Abyssinie était de 101 et il y avait parmi ces émigrants 18 femmes. Très peu de musulmans étaient restés en compagnie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après leur retour à la Mecque, ils sont de nouveau partis en Abyssinie et les historiens nomment cet exil la deuxième immigration en Abyssinie. Tulaib a quitté la Mecque pour se rendre à Médine et à Médine, il l'avait logé chez Abdullah bin Salma Ajlani. Le saint prophète Mohammed B.S.A.W. avait établi un lien de fraternité entre Tulaib et Munzir bin Amr. Tulaib avait participé à la bataille de Badr et il était compté parmi les grands compagnons du saint prophète B.S.A.W. Il avait aussi participé à la bataille de Jenadain au cours du mois Jamadul Oula en l'an 13 de l'Hégire et il tomba à martyr à l'âge de 45 ans lors de cette bataille. Jenadain est un lieu situé en Syrie et là-bas, les musulmans livrèrent bataille contre les Byzantins en l'an 13 de l'Hégire. Selon d'autres récits, Tulayb tomba à martyr lors de la bataille de Yarmouk. Le prochain compagnon se nomme Salim Maula ibn Abi Hudayfa. Son nom d'emprunt était Abu Abdullah et son père se nommait Markil. Son père se nommait Markil, comme je viens de l'annoncer. Et il était originaire d'Istakhr, de la Perse. Salim faisait partie des grands compagnons. Il était aussi un émigrant et il s'était rendu à Médine avant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait établi un lien de fraternité entre Salim et Mu'adh bin Ma'is. Salim était l'esclave de Subayta bin Yar, qui était l'épouse d'Abu Hudayfa. Subayta bin Yar avait affranchi Salim selon la coutume dite Saïba. Selon la loi générale de l'époque, après sa mort, les biens de l'esclave affranchi étaient légués à celui qui l'avait libéré. Et le Saïba, quant à lui, était un esclave affranchi par son maître pour la cause de Dieu. Et après la mort de l'esclave, ses biens n'étaient pas légués à son libérateur ou à son ancien maître. Abu Hudayfa avait adopté Salim comme fils. Par la suite, on le nommait Salim ibn Abi Hudayfa. Abu Hudayfa avait marié sa nièce Fatima bint Walid à Salim. Allah par la suite avait révélé ce verset « Ud'uhum li'aba'ihim hu aqsatu indallahi » فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَعْبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَعْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا
چاہیے کہ ان لے پالکوں کو ان کے باپوں کا بیٹا کہہ کر پکارو. ترجمہ اس کا یہ ہے,
c'est-à-dire rappeler ses fils adoptifs du nom de leur père. Cela est plus équitable aux yeux d'Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors ils sont vos frères dans la foi et vos amis. Il n'y a aucun péché de votre part si vous avez fait une erreur quelconque à cet égard, excepté ce que vos cœurs ont fait intentionnellement. Et Allah est très pardonnant, Allah est miséricordieux. Après la révélation de ce verset, on le nomma par la suite Salim Maula Abi Hudayfa. Auparavant, après sa libération, il était connu comme le fils d'Abu Hudayfa, mais par la suite, il était connu comme l'esclave affranchi ou l'ami d'Abu Hudayfa. Mohammed bin Jafar relate qu'Abu Hudayfa et Salim Maula Abi Hudayfa logèrent chez Abbad bin Bishr lorsqu'ils quittèrent la Mecque pour se rendre à Médine. Ibn Umar relate que les premiers émigrants de la Mecque résidèrent à Asba, tout près de Quba. lorsqu'ils se rendirent à Médine. Salim était leur imam, car il connaissait le plus le Saint-Coran. Masoud bin Hunayda relate que lorsqu'ils accompagnèrent le saint prophète Mohammed B.S.A. lui à Quba pour y élire domicile, ils virent là-bas une mosquée orientée vers Jérusalem dans laquelle priaient les compagnons. Et Salim Mawla Abi Hudayfa était leur imam. Salim était un qari et il faisait partie de ces quatre compagnons choisis par le saint prophète Mohammed B.S.A. lui pour enseigner le Saint-Coran. Selon Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saab, certains esclaves affranchis étaient de très grands érudits. Salim bin Maqil Abi Hudayfa faisait partie de ces érudits de grand renom. Et il était un de ses quatre compagnons choisis par le saint prophète Mohammed B.S.A.W. pour enseigner le Saint-Coran aux autres. Il ajoute que selon l'histoire, Salim bin Maqil n'était qu'un simple esclave affranchi d'Abu Hudayfa. Mais il avait acquis une si grande connaissance que le saint prophète Mohammed B.S.A. lui avait choisi quatre compagnons pour renseigner le Saint-Coran aux musulmans. Salim faisait partie de ses compagnons. Et il était à cet effet un des adjoints du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, le Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui a déclaré « Apprenez le Coran de ses quatre compagnons. » En premier, Abdullah bin Mas'ud, ensuite Salim Mawla Abi Hudayfa, ensuite Ubay bin Ka'b et Mu'adh bin Jabr qui était le quatrième. Selon un récit, un jour, Aïcha arriva en retard chez le saint prophète Mohammed B.S.A. lui. Quand le saint prophète B.S.A. lui lui demanda la raison de son retard, elle répondit, « Un qari était en train de réciter le Saint-Coran d'une voix très mélodieuse et je l'écoutais, d'où mon retard. » Le saint prophète B.S.A. lui se vêtit de son châle et il sortit pour voir Salim en train de réciter le Saint-Coran. Il déclara, « Je remercie Dieu d'avoir accordé à ma umma des qaris comme toi. » Salim Mawla Abi Hudayfa eut l'occasion de laver les blessures subies par le saint prophète B.S.A. lui lors de la bataille d'Uhud. Qatada relate que le saint prophète Mohammed B.S.A. lui, le jour de la bataille d'Uhud, fut blessé au front et il fut aussi blessé aux dents situées entre les incisives et la canine. Quand Salim Mawla Abi Hudayfa était en train de laver les blessures du saint prophète, le saint prophète demandait comment la nation qui traite ainsi son prophète aura-t-elle le salut. Allah révéla le verset suivant par la suite. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba 'alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. C'est-à-dire, cette affaire ne dépend aucunement de toi. Il se peut qu'ils se tournent vers eux avec clémence ou qu'ils les châtient. En tout cas, ce sont des injustes. Salim relate une parole du saint prophète Mohammed B.S.A. lui, une parole qui mérite ici une grande attention. L'envoyé d'Allah déclara que le jour de la résurrection, une nation aux œuvres aussi importantes que la chaîne de montagnes Tihama sera présentée. Les montagnes Tihama s'étendent sur la côte de l'Arabie. Elles débutent de Nashibi du Sinaï pour s'étendre vers le sud-ouest de la péninsule arabique. Il s'agit d'une chaîne montagneuse qui débute dans le golfe de la mer Rouge. Le saint prophète B.S.A. lui a déclaré « Les bonnes œuvres de cette nation ressembleront aux montagnes de Tihama, mais Allah rejettera leurs actions lorsque celles-ci lui seront présentées. » et ces gens-là vont finir en enfer. Salim a déclaré au envoyé d'Allah que mes parents soient sacrifiés pour vous. Indiquez-nous qui sont ces gens afin que nous puissions les reconnaître. Je jure au nom de celui qui vous a suscité avec la vérité, je crains de faire partie de ces gens-là. La réponse du saint prophète Mohammed mérite ici attention. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré, ces gens-là jeûnent, ces gens-là accomplissent la salat. Ces gens-là dorment très peu durant la nuit, c'est-à-dire qu'ils accomplissent des prières facultatives. Mais lorsqu'on va leur présenter des biens illicites, ils vont tomber dessus. C'est-à-dire, en dépit de leurs œuvres, ils céderont à leur convoitise sans distinguer le licite de l'illicite. Et c'est pour cette raison qu'Allah réduira à néant leurs œuvres. Thorban relate que le saint prophète Mohammed a déclaré, j'ai connaissance de certains membres de ma Oumma qui vont se présenter le jour de la résurrection avec des œuvres méritoires aussi brillantes que les montagnes Tihrama. Or, Allah l'exalté n'en accordera aucune importance et Allah sèmeront ses œuvres aux quatre vents. Selon un autre rapporteur, Thorban a demandé au envoyé d'Allah, indiquez-nous les signes de ces gens-là afin que nous ne fassions pas partie de ces gens-là. Et que nous ne soyons pas des leurs inconsciemment. Le saint prophète, paix soit sur lui, a expliqué, ces gens-là sont vos frères, leur peau ressemble aux vôtres, c'est-à-dire ils appartiennent à votre ethnie. Comme vous, ils passeront la nuit à rendre culte à Dieu. Ce seront des adorateurs de Dieu, certes, mais ils ne respectent pas les interdits fixés par Allah. C'est-à-dire qu'ils ne distingueront pas le licite de l'illicite et des choses interdites par Dieu. Et le monde aura le dessus sur eux. Ce conseil mérite une réflexion constante et ceci est très alarmant qu'Allah nous permette à tous d'accomplir de manière constante notre introspection. Les fils d'Abdullah bin Amr se nommaient Salim, Waqid et Abdullah, conformément au nom de certains grands compagnons. L'un se nommait Salim, à l'instar de Salim Maula Abi Hudayfa. Saïd bin al-Musayyib relate, Abdullah bin Amr m'a demandé, « Sais-tu pourquoi j'ai nommé mon fils Salim ?» J'ai répondu, « Je l'ignore. » Abdullah a déclaré, « Je l'ai ainsi nommé en raison de Salim Maula Abi Hudayfa. » Il m'a demandé, « Sais-tu pourquoi j'ai nommé mon autre fils Waqid ?» Ayant répondu que je l'ignorais, il a expliqué, « Je l'ai ainsi nommé en raison de Waqid bin Abdullah Yarboui. » Ensuite, il m'a demandé, « Sais-tu pourquoi j'ai nommé mon autre fils Abdullah ?» Ayant répondu négativement, il a expliqué, « Je l'ai ainsi nommé en raison d'Abdullah bin Rawaha. » Les grands compagnons étaient tenus en haute estime et les musulmans donnaient leur nom à leurs enfants pour cette raison. Abdullah bin Amr relate, « Certains musulmans avaient accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, lors d'une bataille, et ils avaient pris peur en raison de la férocité de la bataille. Il a déclaré, « Je suis sorti avec mes armes et j'ai vu Salim Maula Abi Hudayfa, qui se tenait lui aussi avec ses armes. Son visage était digne et serein, il n'y avait aucune trace de peur et il avançait. Je me suis dit que j'irai derrière ce saint homme, tant et si bien que nous avons atteint le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. » Et nous nous sommes assis en sa compagnie. Le saint prophète, paix soit sur lui, est sorti tout courroucé. Et il a demandé, « Pourquoi cette peur ? N'êtes-vous pas capable de montrer le même courage que ces deux croyants ?» La peur n'avait pas lieu d'être. Salim et son compagnon avaient respecté sans crainte leur engagement.
Ibn Ishaq bayan karte hain
Après la conquête de la Mecque, relate Ibn Ishaq, le saint prophète Mohammed lui envoya des petits groupes de combattants dans les alentours de la Mecque. Ils avaient pour mission d'inviter les différentes tribus vers l'islam, mais ils n'avaient pas la permission de livrer combat. Ils avaient été envoyés pour l'établir et non pas pour combattre. Le saint prophète Mohammed lui envoya Khalid bin Walid vers la tribu Banu Dazim afin de l'inviter vers l'islam. Les membres de cette tribu ont pris leurs armes lorsqu'ils ont vu Khalid. Khalid leur a dit : les gens ont embrassé l'islam et ce n'est pas la peine de prendre les armes. Un certain Jahdam a déclaré : je ne baisserai pas mes armes. Il s'agit de Khalid et je n'ai pas confiance. Par Allah, après avoir baissé nos armes, nous serons emprisonnés, ensuite nous serons exécutés. Certains membres de sa tribu l'ont attrapé et lui ont dit : ô Jahdam, souhaites-tu faire couler notre sang ? Les autres ont baissé leurs armes et la guerre a pris fin. Et ils lui ont arraché ses armes et ensuite ils ont déposé leurs armes. Après qu'ils avaient déposé leurs armes, Khalid a tué certains d'entre eux et emprisonné d'autres, et il nous a confié nos prisonniers. Salim relate : le lendemain, Khalid nous a ordonné à chacun de tuer nos prisonniers. Salim Maula Abu Hudayfa relate : j'ai déclaré : au nom d'Allah, je ne tuerai pas mes prisonniers, et mes compagnons ne tueront pas leurs prisonniers non plus. Ibn Hisham relate qu'un compagnon s'en alla relater au saint prophète toute l'affaire. Ceci a déplu au prophète d'Allah qui a demandé : l'action de Khalid avait-il déplu à l'un des vôtres ? L'autre a répondu : oui, un homme de teint clair et de taille moyenne a exprimé son déplaisir. Et Khalid l'a réprimandé et cette personne s'est tue. Et une deuxième personne de grande taille a aussi exprimé son déplaisir et Khalid s'est disputé avec lui. Et ils ont échangé des paroles amères. Sur ce, Omar bin Khattab a déclaré : ô envoyé d'Allah, je connais ces deux personnes. Le premier est mon fils Abdullah et le deuxième est Salim Maula Abu Hudayfa. Selon Ibn Ishaq, le saint prophète Pessoa lui a fait venir Ali pour l'instruire à ceci : va vers cette tribu et enquête sur la raison de cette affaire. Écrase complètement sous tes pieds cette affaire ayant trait au jour de l'ignorance. Ali est parti avec beaucoup de biens confiés par le saint prophète Mohammed Pessoa lui afin de compenser les pertes de vie et de biens subies par cette tribu. Ali leur a envoyé ses biens afin de compenser les pertes de vie et de biens qu'ils avaient injustement subies. Après la distribution de ses biens, il en resta encore entre les mains d'Ali. Il demanda : quelqu'un d'autre n'a-t-il pas été compensé pour ses pertes ? Ils répondirent : non. Tout le monde a été traité avec justice et personne ne fut oublié. Ali commenta : par précaution, je vous confie le restant de ces biens envoyés par le saint prophète, paix soit sur lui, car le prophète sait ce que vous ignorez. Il leur confia les biens et s'en alla auprès du saint prophète, paix soit sur lui, et il informa le saint prophète, paix soit sur lui, à propos de la distribution. L'envoyé d'Allah déclara : tu as accompli cette tâche avec merveille. Ensuite, en se tournant vers la Mecque, il pria en ces termes : ô Allah, je m'absous auprès de toi de ce que Ali bin Khalid a accompli. Il a déclaré : ô Allah, je m'absous auprès de toi de ce qu'a accompli Khalid bin Walid. C'était là une action condamnable de sa part. Ainsi, si un musulman était coupable d'une injustice ou d'une faute, le saint prophète, paix soit sur lui, exprimait non seulement son déplaisir, mais il tentait d'y mettre fin et il compensait aussi le méfait et faisait tout pour consoler les lésés. Et cela en dépit du fait que certains qui avaient pris les armes étaient aussi des ennemis. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, n'avait pas souhaité une telle action de la part des musulmans. Tel était son sens de justice. Le père d'Ibrahim bin Handala rapporte ceci. Le jour de la bataille de Yamama, on confia le drapeau entre les mains de Salim Maula à Abi Hudhayfa. Certains lui ont dit qu'il craignait pour sa vie et qu'on devait confier le drapeau à d'autres personnes. Sur ce, Salim répondit, « En ce cas, je serai un bien piètre porteur du Saint-Coran. » C'est-à-dire, je suis un grand savant du Coran et si, en dépit de cette connaissance, je n'applique pas ses conseils, ce sera là une action fort condamnable. Ou si j'évite une obligation imposée par le Coran, par peur de perdre ma vie, eh bien, cette connaissance du Coran ne me servira pas à grand-chose. Quand Salim perdit sa main droite lors de la bataille, il prit l'étendard dans la main gauche. Et quand il perdit la main gauche, il serra l'étendard dans son cou et lut ceci. « Wa ma Muhammadun illa Rasul. Wa ka'ayyim min nabiyin qatala ma'hu ribiyun kathir. » C'est-à-dire, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un prophète et de nombreux saints hommes ont combattu en compagnie des prophètes. Quand Salim tomba, il demanda ce qu'il était advenu d'Abu Hudhayfa. On lui répondit qu'il était tombé à martyr. Il demanda à propos d'un autre et on l'informa qu'il était aussi tombé à martyr. Sur ce, Salim déclara, « Enterrez-moi entre ces deux-là. » Et après son martyre, Omar envoya l'héritage qu'il avait légué chez Thubaita bint Yar, qui avait libéré Salim. Mais il n'accepta pas cet héritage en disant qu'il l'avait libéré pour la cause de Dieu, sans aucune contrepartie. Par la suite, Omar plaça l'héritage dans la caisse de la Baytul Mal. Mohammed bin Thabit relate que quand les musulmans s'étaient dispersés lors de la bataille du Yamama, Salim déclara « Nous n'agissions pas de la sorte en compagnie du saint prophète Mohammed bin Sassoui, c'est-à-dire que nous ne prenions pas la fuite. Il creusa un trou et il s'y plaça. Il avait entre les mains l'étendard des émigrants. Il se battit bravement avant de tomber à martyr. » Il tomba à martyr en l'an 12 l'Hégire lors de la bataille de Yamama au cours du califat d'Abu Bakr. Cette référence est tirée de Tabaqat al-Kubra. Zayd bin Thabit relate que, après le martyr de Salim, les gens racontèrent qu'un quart du Coran avait disparu. C'est-à-dire, un de ces quatre érudits choisis par le saint prophète, paix soit sur lui, pour l'enseignement du saint Coran, avait disparu. Le prochain compagnon se nomme Itban bin Malik. Itban bin Malik appartenait à la branche Banu Salim bin Auf de la tribu Khazraj. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi un lien de fraternité entre Itban et Omar. Itban avait participé aux batailles de Badr, d'Uhud et du Fossé. Et il avait commencé à perdre la vue au cours de la vie du saint prophète, paix soit sur lui, et il décéda à l'époque de Mouawiyah. Itban bin Malik et ses compagnons se présentèrent au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsqu'il arriva à Médine. Et Itban et ses compagnons demandèrent au saint prophète, paix soit sur lui, de loger chez eux. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, déclara, laissez ma chamelle, elle marche sous le commandement de Dieu et elle s'arrêtera là où Dieu le voudra. Omar relate que nous habitions, mon voisin Ansari et moi, à Banu Umayya bin Zayd, un des villages situés en hauteur dans les alentours de Médine. Et nous partions à tour de rôle à la rencontre du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et je partais un jour, et mon voisin partait le lendemain. Et quand je partais, je lui rapportais les révélations ou les nouvelles du jour. Et il en faisait de même lorsqu'il partait. Un jour, quand c'était son tour, il est revenu frapper vigoureusement à ma porte et il a demandé si j'étais présent à la maison. Je suis sorti tout inquiet, déclare Omar, et il m'a informé d'un grand malheur. Omar déclare que je suis parti chez Hafsa pour constater qu'elle était en larmes. Je lui ai demandé, le saint prophète, paix soit sur lui, t'a-t-il donné le divorce? Hafsa a répondu, je l'ignore. Sur ce, je suis parti demander au saint prophète, paix soit sur lui, s'il avait divorcé de ses épouses. Le saint prophète a répondu négativement et j'ai annoncé Allah Akbar. Certains récits font mention d'une foule de détails à ce propos, notamment que le saint prophète, paix soit sur lui, avait vécu dans la solitude pendant un mois. Il s'était séparé de ses épouses et il s'était séparé aussi de ses compagnons. Et certains croyaient qu'il avait divorcé de ses épouses et qu'il était fâché pour quelque raison. Mais les raisons étaient tout autres. Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib écrit ceci dans son commentaire des Hadith al-Bukhari. Il déclare qu'Omar relate qu'elle partait un jour chez le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et son compagnon partait le lendemain. Il dit que si l'on n'a pas l'entière possibilité d'acquérir le savoir, l'on doit le faire à tour de rôle avec un compagnon, à l'instar d'Omar et d'Ibn bin Malik Ansari. L'on déduit aussi de cet incident l'engouement des compagnons. Ils laissaient leurs occupations pour parcourir 5 ou 6 kilomètres pour consacrer une journée entière à la quête du savoir. Mais Allama Aini, dans son commentaire de Bukhari nommé Umdatul Qari, déclare que ce voisin ne se nommait pas Ibn bin Malik, mais il s'agissait d'Aws bin Khawli. En tout cas, on trouve mention du nom d'Idban dans le récit d'Omar. Selon un récit, Idban bin Malik avait demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui la permission de ne pas accomplir la salat en congrégation à la mosquée lorsqu'il avait perdu la vue. Le saint prophète paix soit sur lui lui a demandé « Est-ce que tu entends l'appel à la prière ?»« Oui, a répondu Idban. Sur ce, le saint prophète ne lui a pas donné la permission de ne pas accomplir la prière en congrégation à la mosquée. Il s'agit d'un hadith très connu et qui mérite aussi des explications. Selon le récit d'Al-Bukhari, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, par la suite, avait permis à Idban bin Malik d'accomplir la salat à la maison. Il le lui avait interdit dans un premier temps avant de lui accorder cette permission. Selon le récit de Bukhari, Ibn bin Malik officiait comme imam des gens de son quartier et il était aveugle. Il avait déclaré au envoyé d'Allah, il fait nuit et il y a des inondations lorsqu'il pleut beaucoup. L'eau coule à torrent dans la vallée et je suis malvoyant. « Ô envoyé d'Allah, venez prier chez moi afin que j'en fasse un lieu de prière. » Il m'est difficile de me rendre à la mosquée. Venez chez moi et veuillez prier à l'endroit que j'ai réservé pour la salat. Le saint prophète, paix soit sur lui, s'est rendu chez lui et lui a demandé où souhaites-tu que j'accomplisse la salat? Idban a indiqué dans un coin et le saint prophète, paix soit sur lui, y a accompli la salat. Ainsi, en des situations particulières, il est permis d'accomplir la salat à la maison. Mais selon d'autres récits, en dépit de cette permission, le saint prophète, paix soit sur lui, accomplissait la prière en congrégation quand, en raison du mauvais temps et des routes impraticables, les gens ne pouvaient pas se rendre à la mosquée. Ainsi, il n'y a aucune excuse pour ne pas accomplir la prière en congrégation. Le saint prophète, paix soit sur lui, avait donné cette permission à condition qu'il accomplisse la salat en congrégation dans une partie de sa maison. Hadrat Sayyid Waliullah Shah Sahib commente à ce propos dans son commentaire de Bukhari. Ce hadith est rapporté sous l'intitulé Conditions autorisant à faire la prière chez soi en raison de la pluie ou d'autres raisons. Il déclare, l'imam Bukhari énumère les conditions d'handicap pour lesquelles il est permis de ne pas accomplir la prière en congrégation. Mais le saint prophète, paix soit sur lui, ne leur avait jamais autorisé à prier tout seul à la maison. Il n'avait jamais autorisé personne à prier tout seul à la maison. Tandis que le saint prophète, paix soit sur lui, essayait au mieux de rendre les enseignements applicables. Il essayait de simplifier la mise en application des enseignements religieux autant que possible, mais il ne leur avait pas autorisé d'accomplir la sola tout seul. Il leur a enjoint de faire la prière chez soi, mais en congrégation. Il déclare qu'Ibn était aveugle et son chemin vers la mosquée était coupé par un ruisseau. Il demandait au saint prophète, paix soit sur lui, l'autorisation de prier chez lui. Le saint prophète lui accorda cette permission, mais à condition qu'il la fasse en congrégation. S'il était autorisé d'accomplir la prière chez soi, eh bien, le saint prophète, paix soit sur lui, aurait certainement autorisé Ibn de prier tout seul chez lui, en le considérant infirme. Si les distances sont longues et si vous ne disposez pas de moyens de transport ou de temps, eh bien, comme je l'ai dit à maintes reprises, les Ahmadis doivent transformer leur foyer en centre de prière et réunir les voisins pour prier ensemble. Qu'Allah permette à nous tous de mettre en application ces enseignements. Je vais maintenant faire mention de quelques personnes décédées dont je dirigerai la prière funéraire. Le premier s'appelle Ghulam Mustafa Awan Saheb de Rabwa. Il est décédé le 16 mars dernier à l'âge de 78 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, il était Ahmadi de naissance. L'Ahmadiyya entra dans sa famille par l'intermédiaire de son grand-père Dawan Bakhsh. Le défunt accomplissait les cinq prières quotidiennes régulièrement, ainsi que la prière tahajjud. Il était pieux, empli de sympathie, courtois, humble et simple de disposition. Il priait beaucoup et il avait un grand sens de l'hospitalité. Il aidait les pauvres et il était respectueux des biens de parenté. Il donnait préscience à sa foi sur les choses mondaines. Il était pieux et sincère. Il avait une grande relation d'obéissance avec la Jamaat et avec le califat. Il avait résidé en Arabie Saoudite pour son travail et il a eu l'occasion d'accomplir à 9 reprises le Hajj ainsi que l'Umra en de nombreuses occasions. Il avait aussi eu l'occasion de faire des travaux de construction à la Kaaba et à la mosquée Naboui. Par la grâce d'Allah, il faisait partie du système d'Al-Wasiya. Un jour, sa santé se dégrada soudainement et son premier souci était qu'il n'avait pas encore payé la somme correspondant au Hissa Jaidad. Lorsqu'Allah lui a accordé la santé, il a vendu une partie de ses biens pour payer cette somme. Il laisse derrière lui son épouse, son fils Ahmad Murtaza, qui est en Allemagne, et 4 filles. L'un de ses gendres est Mohamed Jawed Saheb, qui est un missionnaire en Zambie. Un autre gendre est Jamil Ahmad Tabassoum, qui est missionnaire en Russie. Ils ont dédié leur vie et sont en train de servir la communauté. Les filles du défunt ont été mariées à ces missionnaires et elles sont avec leurs maris qui ont dédié leur vie. Étant donné qu'elles étaient à l'étranger, elles n'ont pas pu se rendre sur place pour les funérailles de leur père. Et ils ont dû endurer cette tragédie à l'étranger. Qu'Allah leur accorde le courage face à cette perte et qu'Allah exalte le rang du défunt. La deuxième prière funéraire sera celle d'Amtul Hay Sahiba, épouse de Mohamed Nawaz Tagri Saheb. Elle est décédée le 15 mars dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était originaire de Bagol, un village dans les alentours de Qadian. Elle n'avait que 2 ans lorsque son père décéda. Son oncle paternel, Mohamed Ibrahim, s'occupa d'elle par la suite. La défunte était née Ahmadi et l'Ahmadiyya entra dans sa famille en 1903. Après la création du Pakistan, elle émigra avec sa famille, la famille de son oncle, à Jarawala. Ensuite, elle s'est établie à Rabwa en 1981 pour l'éducation de ses enfants. Et elle est restée à Rabwa pour toujours par la suite. Par la grâce de Dieu, la défunte faisait partie du système d'Al-Wasiya et Allah l'exalté lui a accordé 6 fils et 5 filles. L'une de ses filles était décédée tout jeune. La défunte a dédié ses enfants et par la suite, ses petits-enfants aussi se sont dédiés pour la cause de Dieu. Son fils aîné, Rana Farouk Ahmad, est missionnaire de la Nazarat Dawat-e-Ilallah. Son quatrième fils, Hafiz Mahmoud Ahmad Tahir, est un enseignant à la Jamia Ahmadiyya de la Tanzanie. Il n'a pas pu se rendre au Pakistan pour les funérailles de sa mère. L'un de ses petits-fils est aussi un missionnaire et un autre petit-fils est un missionnaire au Ghana. L'un de ses petits-fils et une de ses petites-filles ont mémorisé le Saint-Coran. Elle a marié beaucoup de ses petites-filles avec des missionnaires et les personnes qui ont dédié leur vie. Son fils Hafiz Mahmoud déclare « Nos parents ont toujours donné préséance au service à la communauté et ils étaient prêts à faire tous les sacrifices pour attacher leurs enfants avec l'organisation de la Jamaat et avec le califat. Ils faisaient tout pour que leurs enfants accomplissent la prière en congrégation. Nos parents avaient un grand intérêt pour l'établir. Tous les frères et sœurs de notre mère étaient non-Ahmadis et elle leur transmettait le message dans la mesure du possible. Et grâce à ses efforts, un de ses frères, Abdulhamid Seb, a embrassé l'Ahmadiyya et ses enfants aussi sont en train de servir la communauté par la grâce de Dieu. »
Lorsque la défunte était à Chorkot, les circonstances en 1953 et 1974 étaient terribles pour la communauté. Elle a enduré ces conditions avec beaucoup de courage et elle ne s'était pas laissée affecter par aucune peur. Son fils ajoute que lors des événements de 1974, un jour, la femme du chef du village est venue chez nous et nous a transmis le message du chef qui annonçait qu'un cortège d'opposants s'avançait afin de détruire les maisons des Ahmadis. Il a demandé aux hommes Ahmadis de se cacher dans les champs et aux femmes de venir chez eux. Mais notre mère a répondu, « Nous resterons chez nous, même si nous devons y mourir. » Les manifestants sont arrivés jusqu'à devant sa maison et aucun homme n'était présent à la maison. Il n'y avait à la maison que ses sœurs et sa mère. Et les manifestants se trouvaient à la porte. La défunte faisait des va-et-vient dans la cour de la maison armée d'une hache. Une voix se fit entendre de l'extérieur qui disait « Il faut attaquer leur maison ». Elle leur répondit de l'intérieur que si quelqu'un entre en escaladant le mur, eh bien je vais le décapiter et je jetterai sa tête dehors comme l'avait fait sa fille. Mais en voyant ce courage, les opposants sont partis. En 1971, un de ses fils était fait prisonnier de guerre. Il était soit soldat ou il était peut-être un fonctionnaire, mais en tout cas, il avait été fait prisonnier de guerre et il est resté prisonnier pendant 3 ans. La défunte avait fait preuve d'une grande patience et lorsqu'il est retourné, il l'a présenté au troisième calife. Le fils de la défunte ajoute, notre mère avait un grand amour pour le saint prophète Mohammed et sa lui, et lorsqu'on parlait à la maison, elle lui demandait de raconter des anecdotes à propos du saint prophète Mohammed et sa lui. Et jusqu'à ces derniers jours, elle parlait du saint prophète et sa lui et du Messie premier d'Islam en disant qu'ils étaient en train de venir. Qu'Allah exalte le rang de la défunte, qu'Allah lui accorde son pardon et qu'il fasse que ses enfants et ses descendants perpétuent ses bonnes œuvres.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر